Europe 1.
T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Klagevold.
Tous les jours sur Europe 1.
Soyez maudits.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Maudits jusqu'à la 13e génération de nos rats.
Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, bonjour. David.
Bonjour à tous.
Et bonjour à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre globe-trotteur de l'histoire, Gavin Clement et Ruiz.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter. En compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui,
le nouveau western.
Ils ont fait un nouveau western, et oui, Claude MC, ils ont fait un nouveau western. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi, avec celui qui fut le premier cinéaste de l'histoire à réaliser un western muet, mais terriblement parlant, Edwin S. Porter et The Great Train Robbery, le vol du Grand Rapide. Un film qui, au-delà du western, avec sa vingtaine de plans, ses 40 comédiens et ses nombreux lieux de tournage, a donné au cinéma une nouvelle envergure. Puis je vous raconte celui qui a donné un second souffle au western, un souffle venu du vieux continent et d'Italie plus précisément, le cinéaste Sergio Leone, avec ses bons, ses bruts, ses truands et ses quelques dollars de plus qu'il a mis sur grand écran. Et après les morts le vivant, c'est vous Jean-Luc qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour qui lui l'a chanté, le nouveau western.
Oui, avec ses mots, son style, son flow, le rappeur Claude MC Solar qui a inventé un nouveau rap, poétique et ludique. Et puisqu'on lui a piqué le titre de son tube de 93 pour en faire le titre de notre émission du jour, je me devais de faire son portrait.
Évidemment, ce n'est que justice, sinon il aurait été très déçu, je comprends. Eux aussi ont imposé leur style et leur flow à la radio. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui nous parlez-vous ?
Eh bien, de cow-boy d'un genre un peu différent, puisque je vais vous parler de Bass Reeves, le premier shérif noir de l'histoire des États-Unis, et de Nat Love, un cow-boy légendaire qui lui était tireur d'élite, champion de rodéo. En voilà deux qui firent jaser dans les saloons, croyez-moi.
Ah, très bien. Et puis, il lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne, c'est David Castillo-Lopez. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Du premier train à grande vitesse du monde, le Shinkansen.
Oui. Je croyais qu'on était les premiers à avoir fait un TGV.
C'était pas
un
TGV ?
Ensuite,
je suis tellement déçu.
Pas du tout.
Et ça vous fait rire. Hein
bah, ouais. Ça me fait de la peine, mais
on n'a pas l'impression.
J'ai fait contre mauvaise fortune.
Et c'est au Japon ?
C'était au Japon, complètement au Japon, entre Tokyo et Osaka.
Eh bien, les origines, c'est en toute fin d'émission, et juste avant, comme dirait l'autre.
Mais aïeux, quelle époque, mais aïeux, quelle époque.
Mais aïeux, quelle époque, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on reste au Japon avec vous, Gavin Clement et Ruiz. On part à la découverte dans la banlieue de Tokyo d'un musée consacré à un seul homme, Ichiku Kubota.
C'est parfait, presque parfait. Ouais, le musée d'art Ichiku Kubota, c'est dans la région des Cinq Lacs, autour du mont Fuji, dans le musée d'art de cet artiste peu connu et spécialisé dans le textile. Il a redécouvert et adapté une technique ancestrale de teinte des kimonos utilisée au 14e, tout cela dans un lieu très très surprenant, vous verrez.
Et mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure. Vers 17h40.
Et autre rendez-vous que vous ne manquez pour rien au monde, bah c'est le quiz.
Ça, je peux pas le manquer parce que j'y participe. Et je suis opposé à Clémentine, donc je suis obligé d'être là, Jean-Luc.
Oui, même s'il faut bien l'avouer, parfois, vu votre score, on a l'impression que vous n'êtes pas vraiment là.
Vous devez être bien malheureux dans votre vie pour être aussi méchant avec moi. Pour l'heure, restez bien avec nous, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
Il a été l'un des pionniers du cinéma à une époque où personne ne croyait en l'avenir de cette drôle d'invention. Et il a inventé un genre à lui tout seul. Je vous raconte l'homme qui a tourné le tout premier western du monde, Edwin Stanton Porter. Edwin Stanton Porter est né en Pennsylvanie en 1870, mais sa vie aurait sans doute été bien différente si un autre événement ne s'était pas produit à quelques milliers de kilomètres de là, 25 ans plus tard. Nous sommes le 28 décembre 1895 en France. Ce soir-là, les frères Lumière projettent une dizaine de films animés dans le salon indien du Grand Café de Paris, parmi lesquels quelques pépites comme L'arroseur arrosé ou la célèbre Sortie des usines Lumière. Les historiens du 7e art débattent encore pour savoir si ce court-métrage de 50 secondes est, oui ou non, le premier véritable film de l'histoire du cinéma. Mais une chose est sûre, au milieu des années 1890, on commence à voir des images photographiques bouger sur un écran pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. À cette époque, deux pays rivalisent alors d'inventivité pour mettre au point les premières caméras et les premiers projecteurs. La France donc, avec les frères Lumière en tête de file, et sa propre patrie, les États-Unis, où Thomas Edison commercialise déjà ses premiers appareils de projection, les vitascopes. C'est d'ailleurs ce dernier qui est le premier à utiliser le mot « film » pour désigner ses petits premiers courts-métrages encore muets, tournés en noir et blanc et longs de quelques dizaines de secondes seulement. Lorsque Edwin Porter quitte sa Pennsylvanie natale en 1896 pour rejoindre le studio qu'Edison vient de fonder dans le New Jersey, la plupart des pionniers du cinéma n'y voient qu'une mode passagère, une nouvelle technologie certes amusante, mais rien qui soit véritablement capable de bouleverser des arts comme le théâtre ou le music-hall. Les frères Lumière eux-mêmes considèrent leur invention comme une sorte d'attraction foraine qui ne tardera pas à lasser les foules. Au tout premier temps du cinéma, c'est le matériel qui impressionne le plus les spectateurs, parce qu'on filme, et c'est exactement ce qui conduit Edwin Porter à rejoindre les studios de Thomas Edison. À 26 ans, le jeune homme a déjà roulé sa bosse. Bidouilleur né, mécanicien de génie, le garçon a fait ses premières armes dans l'industrie électrique chez lui à Connellville avant de rejoindre la marine américaine pour 3 ans comme télégraphiste. Passionné de nouvelles technologies, Porter rejoint les ateliers de Thomas Edison comme simple motion picture operator, autrement dit projectionniste. Et la tâche n'est pas simple à une époque où on peut vite se retrouver à batailler contre son matériel. Mais Edison comprend bien vite que son nouvel employé est un inventeur doué. En 1898, Porter est envoyé à New York pour s'occuper de l'Eden Museum, un théâtre qui projette régulièrement les films produits par Edison. Le jeune homme s'occupe de tout, de la programmation, des projections, à l'accompagnement musical des films, en passant par l'achat des œuvres produites en Europe et aux États-Unis par les premiers studios de cinéma. Là-bas, Porter projette quelques-uns des films Lumière, puis ceux d'un autre Français, Georges Méliès, l'un des premiers à utiliser le trucage au cinéma. À l'automne 1900, alors que le potentiel commercial du cinéma devient une évidence, Edison crée un nouveau studio à New York et en confie les rênes à son homme de confiance, Edwin Porter. Impressionné par les œuvres de Méliès en général et par le voyage sur la Lune en particulier, Porter comprend vite qu'au-delà de son talent pour la technique et les trucages, le Français amène une autre nouveauté avec ce film, un scénario. Au début des années 1900, c'est une rareté. Les films projetés sont des tableaux de vie quotidienne, des scènes de rue ou des numéros de music-hall. On est encore loin de toute idée d'intrigue ou de suspense. En 1902, Porter produit le premier film américain doté d'un embryon de scénario, Life of an American Fireman, la vie d'un pompier américain, un court-métrage de 9 minutes, bien plus long que les bobines habituelles. Et cette histoire d'un pompier qui sauve une mère et sa fille fait un carton. Conquis, Edison demande à Porter d'adapter un grand succès de la littérature américaine, La case de l'oncle Tom. Le film séduit plus encore, porté par une innovation imaginée par Porter. Entre chaque plan, le réalisateur glisse un carton imprimé avec une phrase qui aide le spectateur à suivre l'intrigue de ce qui est alors, avec une durée de 19 minutes, le film le plus long de l'histoire. Pour voir son film le plus remarquable, il faut attendre encore quelques mois. En 1903, Edwin Porter décide de viser plus haut en filmant l'attaque d'un train braqué par 4 cow-boys. C'est le premier western de l'histoire du cinéma, mais c'est à peine un film historique. Après tout, à cette époque-là, Calamity Jane vient tout juste de disparaître et beaucoup de grandes figures de l'Ouest sont encore vivantes, à commencer par Wyatt Earp, Buffalo Bill ou Butch Cassidy, dont les exploits ont longtemps fait la une des journaux. Il y a 3 ans à peine, Cassidy avait attaqué un train de l'Union Pacifique avant de disparaître avec 60 000 dollars dans les poches. C'est de cette histoire que Porter décide de s'inspirer pour son film le plus ambitieux, « The Great Train Robbery », le vol du Grand Rapide. 40 acteurs, une dizaine de lieux de tournage, souvent en extérieur. Nous sommes encore loin des blockbusters modernes, mais le cinéma commence à prendre une véritable envergure. Si le vol du Grand Rapide a marqué les débuts du cinéma, c'est d'abord pour son intrigue haletante. Quatre bandits attaquent un train de voyageurs, font sauter un coffre-fort, dévalisent les passagers avant qu'une troupe de Rangers parvienne à les cerner et à les abattre. Le crime, la poursuite, la confrontation, en 20 plans et en moins d'un quart d'heure, Edwin Porter vient de poser les bases d'un genre, des règles que vont suivre une bonne partie des grands classiques du western. Avec le premier western, Edwin Porter n'a pas seulement inventé un genre, il a aussi inventé une nouvelle manière de tourner, plus réaliste que jamais. Le train du film est un véritable train qui roule pour de bon sur une véritable voie ferrée, provoquant ainsi une saisissante impression de mouvement. Porter joue aussi sur la profondeur de champ pour donner une intensité dramatique à la scène. Alors que la locomotive est à l'arrêt, l'employé des chemins de fer filmé au second plan ne voit pas les bandits se glisser dans son dos pour monter sur le train, pas plus que le conducteur du train ne sent venir la menace un peu plus tard. Et encore, ces deux plans sont marquants, mais moins qu'une autre image restée célèbre, copiée 100 fois depuis, celle où le chef des bandits, filmé face caméra, tire un coup de feu en direction des spectateurs. Spectaculaire et effrayante pour des salles qui n'avaient encore jamais vu ça, la scène marque les esprits. Avec le vol du Grand Rapide, Edwin Porter peut se vanter d'avoir tourné le premier western. Mais il est surtout l'un de ces pionniers qui inventent petit à petit une grammaire nouvelle pour le cinéma. Une nouvelle manière de raconter une histoire au travers du montage, des ellipses et du récit d'action simultané en s'affranchissant de scénarios jusque-là très linéaire. Après ce qui est un immense succès commercial, en tout cas pour l'époque, Porter va continuer de tourner. Fâché avec Edison, il fonde avec quelques amis la Famous Player Film Company en 1912, devenue depuis la Paramount. Plusieurs de ses films font un tabac comme son adaptation du Comte de Monte Cristo, mais aucun n'arrivera à la cheville du premier western de l'histoire. Au fil des ans, Porter se fait davantage producteur que réalisateur et découvre quelques-unes des premières grandes stars du cinéma américain, à commencer par Mary Pickford, coqueluche de Broadway et bientôt d'Hollywood, qu'il lance en 1914 avec le film Un bon petit diable. Mais Edwin Porter se lasse vite de cette grande machine dévorante que le cinéma est en train de devenir. Sa fortune lui permet de s'en éloigner, au moins jusqu'à ce que la crise de 1929 en engloutisse la plus grande partie. Il lui reste assez d'argent pour vivre confortablement jusqu'au 30 avril 1941, date à laquelle il s'éteint à New York, bien loin d'Hollywood et d'une industrie du cinéma dont il reste l'un des plus grands pionniers.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Edwin Stanton Porter avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous sommes avec un écrivain pour qui le western n'a plus aucun secret. Bonjour Louis-Stéphane Ulysse.
Bonjour.
Louis-Stéphane Ulysse, vous avez publié il y a quelques années un très bel ouvrage sur l'histoire du western. Comment expliquez-vous qu'Edwin Stanton Porter, figure importante du cinéma américain et de son développement, reste aujourd'hui une figure méconnue ?
Eh bien, je pense que ça s'explique pour plusieurs raisons. La première, c'est que Porter n'a pas dédié sa vie au cinéma. C'est-à-dire qu'il, comme vous venez de l'expliquer, à partir de 1915, il revient sur les machines, c'est-à-dire en l'occurrence les projecteurs, et il met au point et perfectionne le projecteur simplex, qui sera un projecteur qui existera jusque dans les années 1980. Mais la création de cinéma, les studios de cinéma ne l'intéressent pas beaucoup. Il y a une anecdote comme quoi, je crois qu'il a tourné avec Lillian Gish et qu'il ne comprenait rien aux acteurs et que ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de bidouiller les caméras, de chercher à résoudre des problèmes au moment du tournage. Mais après, la notion de création même, comparée à un Méliès, lui échappait un petit peu.
Mais est-ce qu'il est aussi méconnu aux États-Unis ou c'est seulement une figure méconnue pour nous, Français ? Est-ce qu'il est un peu leur Méliès à eux ?
Alors, il figure à la bibliothèque du Congrès. Historiquement, on sait l'apport qu'il a donné. Après, il est un petit peu... Il connaissait Méliès, il appréciait évidemment le travail de Méliès, mais il est assez différent de Méliès dans la mesure où il travaillait pour Edison. Et lui, ce qui lui posait problème avec Méliès, même s'il était très admiratif, par exemple, du voyage dans la Lune, c'était quand même que c'était, ça restait pour lui du musical, c'est-à-dire une tradition. Méliès était magicien, enfin, il avait racheté le théâtre de Jean-Eugène Robert-Houdin. Et Porter, lui, voulait plutôt faire rentrer la vie dans le boîtier de sa caméra, en servant de la fiction.
En même temps, on dit que c'est quand même lui qui, comme Méliès en France, a introduit des scénarios dans ses films. Est-ce que c'est notamment une des choses qui a fait sa différence ?
Effectivement, mais il y avait déjà eu en 1899, par exemple, un tout petit film de James White où un homme rentrait dans un bar, enlevait le chapeau d'un homme, se faisait éjecter du bar et tout ça. Ça durait 40 secondes. Mais en fait, la première histoire ou le premier sketch, c'est l'arroseur arrosé. Après, se pose un problème, c'est-à-dire que plus il y a un temps de pellicule conséquent, plus il faut raconter quelque chose. Mais disons que Porter, son apport, c'est surtout le montage, qui est très important, parce que ça pose effectivement tout l'alphabet, toute la grammaire du cinéma dont on sert encore aujourd'hui. C'est-à-dire le changement de point de vue, donc, qu'il puisse y avoir deux actions qui se passent dans des lieux différents, avec un point de vue différent, de personnages différents, c'est très important.
Nous sommes revenus dans une précédente émission sur le fait qu'Alice Guy était la première réalisatrice de fiction de l'histoire dès 1896. Alors, qu'est-ce qui change avec Edwin Porter et ses films ?
Porter va être plus dans un principe de réalité, vraiment, comme je vous le disais, de capturer l'essence de la vie. Alors que Alice Guy, en France en tout cas, et un peu comme Méliès, seront plus dans un imaginaire. C'est-à-dire la naissance dans les choux d'Alice Guy. Après, quand Alice Guy va aux États-Unis, ça devient un petit peu différent parce qu'elle a son propre studio avec son mari. Et là, elle commence elle-même à faire des westerns. Mais au début, Porter est plus sur comment capturer la vie, comment rendre compte du panorama, si vous voulez, de la vie, le capturer dans l'image, quoi.
Louis-Stéphane Ulysse, j'ai rappelé le film d'Edwin Porter, Le vol du Grand Rapide, basé non seulement sur une histoire vraie, mais surtout récente. Nous sommes en 1903 et le braquage du train a lieu 3 ans auparavant. On est plus dans le fait divers que dans le fait historique qui fera plus tard la marque de fabrique des westerns, n'est-ce pas ?
Oui, en fait, plus exactement, on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que le braquage du Grand Rapide, c'est un peu comme, je ne sais pas, l'équivalent en France de la Fermerine, par exemple, ou du Casse de Nice, mais en amplifié. D'autant que Butch Cassidy, à ce moment-là, on ne sait pas où il est. On ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il est mort. Donc c'est vraiment entre le fait divers, mais c'est un fait divers de l'Ouest, donc western.
Mais ce qui passionnait les gens, j'imagine, c'est ces histoires de bandits de grand chemin américains, la fascination qu'avaient déjà les Américains pour les cow-boys.
Oui, parce que le début du cinéma avec Edison, c'est quand même un petit peu des cartes postales animées de l'Ouest. Donc on montre l'Amérindien dans son paysage, le garçon vaché avec sa vache. Mais il y a toujours cette notion de vouloir parler du passé, d'avoir une histoire qui soit, disons, plus ou moins fédératrice, qui puisse parler à tout le monde. C'est-à-dire, voilà nos racines. Mais on n'est pas très éloigné non plus de la chanson de geste. C'est-à-dire que par le blues, mais aussi par le cinéma, on va raconter la destinée de chanson en chanson de John Hardy qui a été pendu injustement alors qu'il était ouvrier de chemin de fer. Bon, voilà, c'est toute l'histoire de l'Ouest qui serait écrite.
Le terme de western n'est pas employé pour ce premier film du genre qu'Edwin Porter réalise en 1903. Mais vous l'expliquez dans votre livre, c'est plutôt dans les années 1910, voire 1920 qu'on commence à parler de western. Comment a-t-on trouvé ce nom a posteriori ? Évidemment, ça fait référence à la conquête de l'Ouest, mais pourquoi ça a pris ce petit délai pour devenir le western ?
Alors déjà, la notion de western, elle existait dans ce qu'on appelle les romans à deux sous, les dime novels. Donc le cinéma s'est approprié ce mot qui est un bon, voilà, c'est made in France, de l'Ouest, comme vous allez dans une grande surface bio sur des, ça veut dire de l'Ouest, c'est le label. Au début, c'est des histoires d'Indiens et de cow-boys. Les Indiens et les cow-boys sont mis au même niveau. Petit à petit, ça devient des histoires de cow-boys et d'Indiens, c'est-à-dire que le titre change. Et petit à petit, on élimine. Enfin, le personnage de l'Indien recule un petit peu et ça devient vraiment le point central, c'est la conquête de l'Ouest. C'est-à-dire l'homme face aux grands espaces, comment il va se battre pour obtenir cette terre, entre guillemets, une terre promise, quoi.
Les westerns sont de plus en plus nombreux dans la première partie du XXe siècle, et vous expliquez dans votre livre que les Américains souhaitent à cette époque réhabiliter l'image de l'Indien. Mais quand on voit certains de ces films aujourd'hui, bah, on a l'impression que l'Indien est quand même toujours caricaturé. Malgré tout, est-ce que vous pensez que ça a aidé la cause des Amérindiens ?
Non, et les Amérindiens le disent eux-mêmes assez régulièrement, jusqu'à un film comme « Danse avec les loups », où pour la première fois, les Indiens s'expriment dans leur vraie langue. Pour les Amérindiens, c'est le problème des Blancs, c'est le problème des colons. Ils n'ont rien à voir avec le western. C'est un peu les recherches qui ont été faites sur le livre. C'est-à-dire, ce que je voulais faire, c'était d'essayer de trouver le point de vue des Amérindiens par rapport à ces films qui racontent la conquête de l'Ouest. Mais ils restent très, très hermétiques à ça. Pour eux, ils disent qu'il n'y a rien de pire qu'un Indien à la télé, sauf un Indien qui regarde un Indien à la télé. Parce qu'après, quand il éteint sa télé, si c'est un enfant, il va jouer dehors. Et quand il joue au cow-boy et aux Indiens, il veut le rôle du cow-boy.
Merci beaucoup, Louis-Stéphane Ulysse, d'être revenu avec nous sur ce réalisateur très prolifique qui a ouvert la voie au genre du western. Je rappelle l'ouvrage qui retrace l'histoire de ce genre mythique, Une histoire du western, toujours disponible chez GM Éditions.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire plaisir, Stéphane. J'ai mis votre groupe préféré.
Oula.
Écoutez. Pas l'injure de dire qui c'est
scandaleux. Les Musclés.
Eh ben voilà, voilà.
Et il a reconnu, non? Moi, je n'ai jamais entendu cette chanson.
Jamais?
Non.
Ah, mais quand même.
On va parler de Bombe Atomique.
Les Musclés.
Il y avait Framboisier, il y avait Stéphane Bern, qui était le sixième musclé. Peu de gens le savent.
Oui. Voilà. Avant l'affrontement pour le quiz, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, on reste dans l'Ouest américain, autant des cow-boys, puisque vous nous racontez le destin de deux héros du Far West, le shérif Bass Reeves et le cow-boy légendaire, tireur d'élite et champion de rodéo, Nat Love.
Oui, qui avaient tous les deux pour caractéristique d'être d'origine africaine, d'être des Afro-Américains. Et Bass Reeves, en effet, était le premier. Alors, on le qualifie généralement dans les livres d'histoire de premier shérif noir de l'histoire des États-Unis. Mais enfin, encore convient-il de préciser qu'il fut le premier shérif adjoint noir, évidemment, parce qu'on ne lui a pas tout de suite donné la promotion qu'on aurait donnée à des cow-boys blancs. Il a fait toute sa carrière en Arkansas et dans l'Oklahoma. En fait, il est né en 1838, en Arkansas. Il naît dans une famille d'esclaves. Et sa famille appartient à un député de l'Arkansas dont elle porte le nom, parce que bien souvent, les esclaves portent le nom de leur propriétaire. Donc le député en question s'appelait Reeves. Quand commence la guerre de sécession, Bass, il appartient à cette famille, il n'a pas de choix, il suit le fils de son propriétaire, lui, tu viens te battre de notre côté. Mais il sait bien que pendant ce temps-là, du côté du Nord, on milite pour l'abolition de l'esclavage. Donc à la première occasion, que fait-il ? Eh bien, il s'enfuit, il part vers le Nord et il s'enfonce en territoire indien. Et là, il va vivre pendant des mois avec des tribus, des Cherokees, des Séminoles, des Creeks. Il apprend leur langue. Au total, il maîtrisera 5 langues autochtones. Bon, 1865, fin de la guerre de sécession, abolition de l'esclavage avec le 13e amendement, et ben voilà, Bass Reeves est libre. Il se rapatrie alors en Arkansas, là il se marie avec une certaine Nellie Janice Wilson, à qui il va faire 11 enfants. Et quelques années plus tard, eh bien, le marshal local cherche à recruter 200 adjoints. Et il apprend que Reeves connaît bien le territoire indien et maîtrise la langue de plusieurs tribus, donc il le recrute. Et donc, effectivement, Reeves est le premier noir à servir dans cette position de shérif adjoint à l'ouest du Mississippi. Il va travailler 32 ans dans la police du territoire indien. C'est un très bon tireur, c'est un très bon détective, il ne sera jamais blessé. Et il avait une tactique pour aller débusquer les criminels, c'est qu'en fait, il se déguisait en vagabond. Et évidemment, personne ne prêtait attention à lui, là, ce noir, là, dépenaillé, un peu minable dans un coin. Et ça lui a permis, cette tactique de débusquer et d'arrêter plusieurs grands criminels. Il avait une telle loyauté, une telle conscience professionnelle que lorsque son fils, Benjamin, a été recherché pour avoir tué sa femme, et ben Bass Reeve a dit ben écoutez, je suis volontaire, chargez-moi d'arrêter mon fils, je vais le débusquer, je vais le trouver. Il a en effet retrouvé son fils Benjamin, qui a purgé une peine de prison assez longue, une dizaine d'années, et qui, par la suite, est devenu un citoyen modèle. Il ne prendra sa retraite qu'en 1907, et c'est devenu un des cow-boys les plus connus des États-Unis, avec le fameux Nat Love, qui est né quelques années plus tard. Lui, il est né en 54, il était aussi fils d'esclaves, et des parents qui sont devenus métayers à l'abolition de l'esclavage, et lui était super doué pour le dressage des chevaux. Il a même, dans un concours de dressage, il a gagné un cheval et il l'a revendu, il a quitté sa région pour partir dans l'Ouest, il est devenu un vrai cow-boy pour le coup, alors que Nat Reeve est shérif. L'autre, Nat Love, lui, c'est un cow-boy, il vit avec les conducteurs de troupeaux, et c'est un tireur d'élite, il se bat contre les voleurs de bétail, et il a raconté dans ses mémoires qu'il avait rencontré un certain nombre de grandes figures du Far West comme Billy the Kid, il participait à des rodéos, il gagnait tout parce qu'il était surdoué pour tenir un cheval, et quand il l'a raconté aussi dans ses mémoires, il a été capturé par une bande d'Indiens pendant qu'il rassemblait du bétail et il n'a pas été tué, et il n'a pas été tué, pourquoi? À cause de sa couleur de peau. Vous voyez, ce qui est une histoire touchante qui donne à penser que les tribus d'Indiens savaient que les Noirs aussi étaient stigmatisés. L'ennemi commun, c'était les Blancs, en somme. Alors, quand il s'est rangé, Nat Love, qui a dressé des chevaux furieux toute sa vie, figurez-vous qu'il est devenu un genre de gardien de nuit dans les wagons-lits. C'est une drôle de fin pour un cow-boy. Il est mort en 1921 à l'âge de 67 ans. Alors, la question qu'on peut se poser en conclusion, c'est aujourd'hui, y a-t-il des shérifs noirs aux États-Unis? Et quel pourcentage, à votre avis? Qu'est-ce que vous diriez?
40%.
5%, Stéphane. 5% des shérifs sont afro-américains. Et très récemment, un certain Aaron Appelshahn a été nommé, c'est le premier shérif noir de l'État très conservateur du Wyoming. Le Wyoming est considéré de nos jours comme étant encore très raciste. Il est rentré dans l'Union il y a 134 ans, guerre de sécession, mais c'est la première fois avec ce Aaron Appelshahn qu'on y nomme un shérif noir. Oui, le Wyoming, c'est un des États les plus blancs des États-Unis, un État très conservateur. On y a voté Trump à 70%, mais c'est aussi le premier État du pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes en 1869. Comme quoi, dans la vie, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc.
Absolument. Belle réflexion. Merci Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Bernd to be live.
Oui, mais rassurez-vous, Stéphane, je contrôle tout.
Je crois que c'est ça qui m'inquiète le plus.
Ça fait plaisir. Allez, jouons. Eh ben justement, comme d'habitude, on va commencer avec vous, Stéphane. Dans le désert du Nevada, en 1962, on a fait exploser une bombe atomique. Mmh. 11 millions de tonnes de terre ont été déplacées, créant ainsi le plus gros cratère d'origine humaine. Vous allez me dire, peu de lien avec l'histoire. Pourtant, le nom de ce cratère situé aux États-Unis est... le cratère d'Austerlitz, le cratère de Sedan ou le cratère de Verdun?
Je crois que c'est Verdun. J'ai...
Un flash.
Ça me dit quelque chose.
Ça serait le plus logique en même temps, parce que quelle région du monde a été caractérisée par ce pilonnage d'obus qui en a fait une terre lunaire? C'est Verdun. Ça n'est pas le cas d'Austerlitz, victoire triomphale et claire de l'empereur. Et le
Sedan.
Non, il n'y a pas eu de
Sedan. Sedan, c'est Gravelotte, mais il n'y a pas tellement eu de...
Non, je dirais Verdun.
Verdun, attention, faux amis.
Vous voulez que je change
Non, moi je veux que vous...
Moi j'ai senti qu'il avait l'air de vouloir que vous changiez.
Vous voulez que je dise pas Verdun?
Non, c'est pas ça.
Il a dit faux amis, si. Non,
c'est pas ça, mais le problème c'est que ça s'appelle historiquement vote par Stéphane Bern, il faut que vous restiez un peu crédible.
Donc?
Donc, changez, ouais.
Austerlitz.
Ok, allez, on part sur Austerlitz.
Non, mais attendez.
Non, à un moment...
Vous pensez que c'est plutôt Sedan?
Est-ce que vous voulez que je vous passe la question directement? Je suis désolé, moi je peux plus rien pour vous. Hein. Alors, on part sur quoi, Stéphane?
Sedan, alors.
Non, mais les Américains, ils sont quand même les rois de l'autosatisfaction. Ouais. Donc voilà, Verdun, c'est quand même un... Pas Austerlitz?
Non.
On est les meilleurs, on a fait la blitzkrieg comme ça avec notre explosion.
Il dit pas Austerlitz, il y a deux secondes, c'était sa réponse.
Oui, mais enfin...
Vous êtes un homme de conviction et ça vous honore.
Que celui qui n'a jamais changé d'avis...
Oui, surtout vous, Clémentine.
Hein, oui.
Sedan, allez, on va dire Sedan.
Allez, Sedan, on part sur Sedan.
Vous avez... gagné.
Ah,
Hey. Je serai moins gentil la prochaine fois.
Donc,
moins
non.
Clément.
Non, non, et oh.
J'allais dire.
Faites pas de triomphalisme, s'il vous plaît.
Ouais. Et je dis, Austerlitz, c'est une victoire, c'est pas possible. Ils peuvent pas.
Ah, c'est
et non,
je
vous ai dit, méfiez-vous des faux amis, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la ville. Le cratère de Sedan, on avait appelé ce cratère ainsi à cause du nom de la bombe SEDA. S-E-D-A. Ah. Elle a explosé à 200 mètres sous la surface. Aujourd'hui, le cratère fait 400 mètres de diamètre et a une profondeur de 100 mètres.
Ah oui, ah oui. Quand même. Ah oui, oui, oui.
Grosse bombe, hein, 11 millions de tonnes de terre déplacées. La leçon qu'il faut retenir, c'est que si on laisse le temps à Stéphane, 2 ou 3 heures, il arrive à la bonne réponse. Une question pour Clémentine. Alors, je ne sais pas, Clémentine, si vous avez connu dans votre vie des invasions tribales. En tout cas, l'Italie, si. Citons en 570 les Lombards.
Oui.
Cela donnera évidemment la Lombardie, qui est aujourd'hui encore une région du pays située juste au-dessous de la Suisse. Voici ma question. L'année lombarde est une vieille coutume qui n'a pas complètement disparu, qui consiste à considérer que dans tous les mois, il y a 30 jours. Vrai ou faux ?
Mais à quoi ça sert, enfin ? Il faut bien vivre avec son temps et avec le reste de l'Europe où on parle de mois qui font 28 ou 30 ou 31.
Ah bah oui.
À quoi sert ? Alors, il y a peut-être une tradition marrante autour d'un jour comme ça qui disparaît, où on fait une fête spéciale et on appelle ça l'année lombarde en référence aux Lombards. Oui, oh oui, why not ? Hein ? Oui.
Vous dites oui ?
Oui. Je n'en ai aucune idée, à la vérité, oui.
Eh ben, on vérifie ça.
Vous avez... gagné.
Alors, là aussi, j'étais très gentil avec Stéphane, donc je vous l'accorde, mais c'est pas tout à fait ça. L'année lombarde, c'est considéré qu'il y a dans l'année 360 jours au lieu de 365.
Oui.
Voilà. Et elle sert à calculer les intérêts d'un prêt. Avantage, 360, on peut le diviser par 12, 6, 4 et 2, contrairement à 365.
Et les Lombards étaient les banquiers. D'ailleurs, il y a eu un verbe autour du mot Lombard, parce que dans Les Rois Maudits, c'est un Lombard qui prête de l'argent. Là, on appelle, est-ce que c'est pas, il y a une expression lombardisée, justement, je crois, quelque chose. C'est,
ah oui, donc, quelque chose. Vous n'aurez pas de point en plus avec ça, mais...
Je
vous l'accorde, parce que déjà, j'étais très gentil, je vous l'ai dit avec Stéphane. Mais en même temps, s'il y a 30 jours dans chaque mois, ça faisait aussi 360. Donc les deux réponses étaient valables.
Bah oui, bah j'espère bien.
Quand même, elle a toujours le point.
Oui, non, mais d'accord. Mais vous avez donné les trois réponses en même temps. Sedan, Austerlitz, Verdun.
À la fin, j'ai donné celle que je voulais.
Ouais, enfin, bien aidé par notre camarade, hein.
Allez,
souffleur.
On repart de zéro. Ah,
quelle honte.
Tout va se jouer sur la deuxième question.
Vous voterez Fayot, dans
Fayot. Bassesse.
Partons dans la Manche. Alors je vous rassure, comme vous Stéphane, je n'avais pas mon maillot. Je vous propose que nous allions dans le département plutôt que dans la mer. Le département de la Manche. Barfleur est la plus petite commune du département, mais c'est très joli.
Oui.
Situé à la pointe de Barfleur, il y a un phare. Sa particularité, il a 12 étages, 12 fenêtres et entre chaque étage, 12 marches. Vrai ou faux ?
Ah bah ils pourront bien voir les éoliennes là.
Ouais.
Parce qu'il y a un beau champ éolien.
C'est pas à côté Barfleur, à côté de ce
et tout ça, c'est le Cotentin.
Ah, c'est par là-haut, d'accord. C'est pas du tout là où je pensais. Moi, je pensais que c'était près de Fécamp, là où il y avait Saint-Stolmo conduit et tout. C'est plus haut. Oh, bah oui, pourquoi pas.
Je vois alors, pas pourquoi il n'en aurait pas, mais il n'y a peut-être pas 12 marches. Vous imaginez, il y en a 11. Non, c'est trop cousu de fil blanc, votre histoire. Je dirais non.
Vous dites non ?
Je dis non.
On reste là-dessus ?
On reste sur non.
Allez, on vérifie.
Vous avez... gagné.
Oui. Oh non, mais me faites pas bisque-bisquera.
C'est faux. Ce phare a 365 marches comme le nombre de jours dans l'année, 52 fenêtres comme le nombre de semaines et 12 niveaux comme le nombre de mois.
C'est comme les petits beurre de lu, là. Oui, c'est ça.
Et sachez que la visite pour un adulte plein tarif est de 3 euros.
C'est bien.
Oh, bah c'est bon, ça les vaut.
Ça vaut le coup. Est-ce que vous allez égaliser ou pas? Non, pas encore. Clémentine, le quinci est un vin issu de Sauvignon à consommer avec modération. Le pape Calixte II en parle dans sa bulle en 1120. C'est-à-dire, s'il ne date pas d'hier. Voici ma question. Aussi fou que ça puisse paraître, Quincy, c'est aussi une ville dans le Massachusetts, aux États-Unis, et un petit malin a acheté des cépages du vrai Quincy pour faire du vin à Quincy,
c'est drôle,
aux États-Unis. Vrai ou faux ?
Dans le Massachusetts ?
Massachusetts.
On fait du vin dans le Massachusetts. C'est un petit peu froid là-bas pour faire du vin, non ? Non.
Non ?
Non.
Là, je sens qu'il ne veut
vous
pas.
Vous avez dit non.
Il y a une espèce d'animosité envers moi, de tous les deux, qui devient insupportable. Les auditeurs le sentent.
Non.
Vous dites non ?
Bah, il me semble que je l'ai déjà dit deux fois, je veux bien le redire une troisième.
Elle va redescendre d'un ton quand même. Hein. Allez, on vérifie la réponse.
Vous avez encore gagné.
Voilà. Ouais, c'est bien dommage. Quincy est connu grâce à une autre boisson, le Coca. Dans les années 20, Pat Monroe, banquier, conseilla à tous ses clients d'acheter des actions Coca-Cola. Résultat, la ville a longtemps été la ville la plus riche des États-Unis, avec un taux de millionnaires étonnamment élevé.
Alors que chez nous, c'est Pernay. Hein. On fait pas du Coca, on fait du champagne. Mais c'est vrai que c'est votre histoire de Massachusetts, là, ça m'a... Je me suis dit, non, il n'y a pas assez d'ensoleillement pour faire du vin
On aurait tous voulu, en tout cas, avoir ce banquier.
Bon,
très, très bon conseil.
Nous sommes à égalité après ces réponses triomphales.
Et donc la question qui va vous départager, écoutez-moi bien, ça va pas être très rigolo. Du 7 avril au 17 juillet 1994, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. En 2021, le président Macron se voit remettre un rapport de plus de 1000 pages d'une commission qu'il avait lui-même constituée. Composé de 14 historiens, le rapport conclut, je cite, « une faillite de la France et à ses responsabilités accablantes ». Voici ma question. En 2000... Sur 100 000 habitants au Rwanda, il y avait combien de détenus ?
900.
900 détenus pour 100 000 habitants. Mmh.
10 000.
10 000. Ah oui, alors,
ouais, 10%.
Vous ne faites pas
semblant.
Mais
quand on veut faire la paix des braves, c'est un peu comme au lendemain de 45. On est obligé d'amnistier, sinon la reconstruction est impossible. C'est pour ça que je pense plutôt à une donnée chiffrée plus basse que ce à quoi on s'attend spontanément, parce que précisément, on pourrait penser que la moitié... Ou alors, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, la moitié de la population, est sur 100 000, il y a une proportion, un tiers est en prison. C'est ou très peu, ou énorme.
Exactement. Alors, vous choisissez quelle option ?
Elle a choisi 900 et moi 10
000. J'ai choisi très peu, oui.
Écoutez, j'en peux plus de votre petit ton. Alors vraiment, on va falloir se calmer quand même. Vous avez dit, écoutez, celle qui remporte ce quiz, c'est Clémentine.
Bravo.
Ça vous apprendra. 1369 détenus pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, sur 1000 habitants en France, il y a 103 détenus. Et combien aux États-Unis d'après vous, pour 100 000 habitants ?
Ça doit être au moins de... le double, voire le quadruple, je pense. Hein.
666 aux États-Unis. Voilà. C'est une victoire de Clémentine.
Mais moi, je suis bonne sur les questions chiffrées. C'est pour ça que j'aime bien les faire. Ah, quelle intuition.
Et historiquement, votre continue avec nos personnages du jour qui ont fait un nouveau western.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Le bon, la brute et le truand. Il était une fois dans l'Ouest pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. On lui doit quelques-uns des plans les plus célèbres et des scènes les plus mythiques du cinéma. Clint Eastwood lui doit, lui, sa carrière. Je vous raconte maintenant le cinéaste italien qui a fait un nouveau western sans mettre un pied à Hollywood, Sergio Leone. Nous sommes le 29 mars 1993 à Los Angeles. Ce soir-là, Clint Eastwood se voit remettre l'Oscar du meilleur réalisateur, puis celui du meilleur film pour Impitoyable. Un film, l'un de ses meilleurs il est vrai, dans lequel il fait par deux fois référence à Sergio Leone. La première est une évidence, puisque le film s'ouvre par une dédicace au réalisateur italien. La seconde est impossible à repérer, ou presque. La paire de bottes de William Money, le tueur vieillissant qu'Eastwood incarne dans son propre film, est la même que celle qu'il portait en 1964 dans le premier western de Sergio Leone pour une poignée de dollars. Comme si Clint Eastwood avait en quelque sorte voulu boucler la boucle en rendant un dernier hommage à l'homme qui avait fait de lui une star mondiale. Fils de l'actrice Vice Valerian et du réalisateur Roberto Roberti, Sergio Leone aurait pu passer son enfance à courir sur les plateaux de tournage, mais les années 30 en ont décidé autrement. Engagé à gauche, Roberti a été directement victime de l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Et en 1929, lorsque Sergio Leone voit le jour à Rome, cela fait des années déjà que son père ne travaille déjà plus. Entre le fascisme et la guerre, Sergio Leone connaît une enfance pauvre. Mais le virus du cinéma est là, et bien là. À 18 ans, lorsqu'il se lance dans le métier, Sergio Leone ne tarde pas à se rendre indispensable sur les plateaux des plus grands réalisateurs italiens de l'après-guerre. De Luigi Comencini à Vittorio De Sica, qu'il assiste sur le tournage du Voleur de bicyclette en 1948. Au début des années 50, lorsque les Américains commencent à tourner leurs films en Italie pour profiter de coûts de production bien plus avantageux qu'à Hollywood, Sergio Leone enchaîne les super-productions comme assistant ou comme chef d'équipe. à l'ère des grands péplums, il est sur le tournage de Covadis, de Hélène de Troie ou de Bénure, pour lequel il travaille sur la fameuse course de chars. Presque logiquement, c'est encore par un péplum qu'il commence sa carrière de réalisateur en 1960 avec le Colosse de Rhodes. Mais c'est avec un autre genre que Léon s'impose d'un seul coup sur la carte du cinéma mondial, avec un film qui relève de ce que la critique a longtemps qualifié avec un certain mépris de « western spaghetti », soit l'un des mots les plus cons que j'ai entendus de ma vie, disait Léon. En 1964, des réalisateurs allemands et italiens commencent à tourner des westerns, des séries B pour la plupart. Sergio Leone, lui, voit grand. Son premier western doit autant au film de samouraï, puisqu'il reprend le scénario de Yojimbo d'Akira Kurosawa, qu'au péplum avec ses panoramas grandioses. Après tout, dit Leone, le péplum et le western ont des points communs. Agamemnon, Ajax, Hector sont les archétypes des cow-boys d'hier. Égocentriques, indépendants, héroïques, fripouilles, et tout ça en grand a des dimensions mythiques. Pour le reste, Sergio Leone s'arrange de tout. Tourner aux États-Unis est impossible. Il plante ses caméras au mythique studio de Cinecittà à Rome et tourne aussi en Espagne. L'acteur James Coburn est pressenti, mais coûte trop cher pour les producteurs. Quant à Henry Fonda, son agent ne l'informera jamais de la demande. Sergio Leone se tourne alors vers un jeune acteur qu'il a remarqué dans la série télévisée Rawhide, Clint Eastwood. Il est séduit par sa démarche lasse et par sa haute taille. Lorsque le film sort en salle en 1964, la critique boude, mais les spectateurs ne s'y trompent pas. Eux comprennent que Sergio Leone vient de réinventer le western à lui tout seul, bien servi par les mélodies lancinantes d'un ancien camarade de classe devenu compositeur de ses films, Ennio Morricone. Mais Leone, c'est aussi un style avec ses flashbacks, ses ellipses, son tempo parfois ralenti jusqu'à l'extrême, ses décors de villages perdus aux arches en ruine inspirés du peintre Chirico. Mais aussi cette alternance de vastes paysages et de gros plans parfois écœurants sur les visages, les regards et les bouches. Si la critique se cabre avec autant de vigueur contre Sergio Leone, c'est d'abord parce que le western est une chasse gardée américaine, un marqueur aussi puissant que la bannière étoilée. Mais surtout, Sergio Leone a quelque chose de désagréable à dire à l'Amérique. Que ce soit dans « Pour une poignée de dollars » ou dans son film suivant « Pour quelques dollars de plus », Leone fait le deuil des légendes héroïques. Fini le temps des Gary Cooper, des John Wayne et des preux chevaliers en Stetson, place à une bande de désespérados ridicules et odieux. Il y a de la comédia dell'arte dans cette galerie de second rôle, tous plus affreux, sales et méchants les uns que les autres, avec leur barbe de trois jours, leurs bottes crasseuses, leurs guenilles détrempées par la transpiration, leurs chicots pourris, leurs visages à la peau vérolée, cuites et recuites par le soleil écrasant des hautes plaines. Il n'y a pas grand monde à sauver dans l'ouest de Sergio Leone. Pas de morale, pas de good guy et de bad guy. Son Amérique est une Amérique où la violence fait loi. Même Clint Eastwood, si beau qu'il soit, a quelque chose d'ambigu dans la trilogie du dollar, magnifiquement conclue en 1966 avec le film le plus célèbre de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand. Dans le dernier volet, Eddie Welch incarne un vrai truand. Leven Cliff campe une abominable brute sadique et reptilienne à souhait, mais Clint Eastwood, ou plutôt Blondin, n'est pas tellement le bon. Plutôt un aventurier plus malin que les autres, et encore un peu plus cynique, si c'est possible. Il n'y a plus de noblesse d'âme dans le monde de Leone, et plus le bien ou le mal, mais un no man's land moral où les moins odieux n'ont guère plus d'état d'âme que les pires salauds. Et quand Sergio Leone décide de donner à Henry Fonda le rôle d'un tueur d'enfants dans Il était une fois dans l'Ouest, il envoie un message à l'Amérique. Non, vos héros ne sont pas purs. Dans cette vaste fresque, on distingue deux messages. La première trilogie, celle du dollar, raconte l'Amérique de la guerre de sécession et de la frontière avec un grand F. La seconde, la trilogie du temps, commence en 1968 avec Il était une fois dans l'Ouest et se poursuit avec « Il était une fois la Révolution » en 1971, avant de se conclure bien plus tard en 1984 par « Il était une fois en Amérique », le récit de l'ascension et de la chute d'un truand du Bronx, interprété par Robert De Niro, hommage nostalgique et funèbre à l'Amérique moderne de la Prohibition aux années 60. à travers cette histoire d'amitié, de traîtrise et de pardon. Sergio Leone ne fait pas seulement le portrait d'un homme. D'une certaine manière, son dernier film est aussi la critique amère d'un homme de la vieille Europe déçu par ce nouveau monde qui a trahi ce qu'il aurait pu être. Sergio Leone en avait sans doute fini avec l'Amérique et le western en 1984, mais il n'en avait pas fini avec le cinéma. Le destin en a pourtant décidé autrement. En 1989, alors que le réalisateur travaillait sur le scénario d'un film autour du siège de Leningrad, une attaque cérébrale le surprend chez lui en plein visionnage d'un film à la télévision. Sergio Leone n'aura réalisé que 8 films en tout et pour tout, mais son influence ne s'est pas arrêtée à sa mort. Et personne, absolument personne aujourd'hui, ne peut regarder un western sans avoir une pensée pour Blondin, pour Sentenza, pour Tuco et pour les autres.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Sergio Leone, nous avons le plaisir d'accueillir un historien du cinéma qui lui redonne vie en bande dessinée. Bonjour, Noël Zimsolo.
Bonjour.
Vous avez bien connu Sergio Leone puisqu'il était votre ami. Quel homme était-il quand il n'était pas sur un plateau de tournage ?
C'était un homme à la fois qui essayait d'être extrêmement gentil avec tout le monde, proche du peuple, mais d'ailleurs il avait connu le peuple étant jeune, hein, étant pauvre lui-même, et en même temps il avait une espèce, disons, de manière de très malin. Je vais vous raconter une très courte anecdote, ça dirait tout. Il était souvent entouré de types très bizarres qui venaient lui proposer des nanas, du travail, du machin, enfin bon. Et ils étaient insupportables. Et un jour, j'ai dit, écoute Serge, qu'est-ce que tu fais avec ces crétins? Pourquoi tu les supportes? Il me dit, mais écoute, Noël, t'es pas grave. C'est comme les arbres qui ont des fruits pourris. Tu pousses un peu l'arbre, il tombe tout seul. Et c'était cette manière de voir le monde. C'est-à-dire que c'était un type très pessimiste, finalement. Et comme tous les pessimistes, c'est le seul qui pensait que les choses pouvaient changer. Parce que les optimistes, ils sont contents, ils disaient, c'est tout. Et en tant que pessimiste, je lui dis, mais pourquoi tu es tellement pessimiste? Il dit, écoute, j'ai vu arriver le fascisme. J'ai vu mourir le fascisme. J'ai vu le compromis historique. Et je suis romain. Quand je marche dans la ville de Rome, qu'est-ce que je vois? Des ruines. On a été très cons à l'époque et on continue à l'être. Et ceci dit, cette manière de regarder était terrible. Et sur le western, par exemple, un jour, je lui demande, mais finalement, quels sont les westerns que tu aimes? Il dit, mais c'est les films muets. Parce que dans les films muets du western, c'est la vraie Amérique qui est montrée. C'est des personnages très durs, très méchants, très proches des films de von Stroheim, comme Wolf's Heart. C'est ce que je veux faire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a redonné au western ses origines, en fait.
Sergio Leone est ce qu'on appelle un enfant de la balle. Et même s'il n'a jamais pu fouler dans sa jeunesse les plateaux de tournage de son père, il n'a jamais eu d'autre vocation que celle de réalisateur.
C'est-à-dire que juste après la guerre, les Américains commencent à beaucoup tourner à Cinecittà, et il y a besoin, disons, de gens qui parlent l'anglais. Lui, il est très bien pour organiser tout le monde, mais il ne parle pas anglais. Et il arrive sur Covadis, parce qu'on lui dit, ah, vous avez mené les gens pour le film de machin, de ceci, de cela. Il dit, oui, mais moi, je ne parle pas anglais. Mais vous êtes très bon, oui, bah, on va vous trouver un traducteur. Et il a été le premier second assistant sur des films à avoir son propre traducteur sur des films. Et là, comme ça, il a connu Melvin Leroy sur le tournage de Covadis, également Tony Mann qui avait commencé le film. Il a connu Robert Wise, Errol Walsh sur le tournage d'Hélène de Troie. Il a connu William Wheeler, il a connu tous ces gens-là. Et il s'est inspiré de tout ça, de leur manière de faire à l'américaine avec le système italien. Et il voulait, lui, retrouver cette espèce d'élan qu'il trouvait chez Charlie Chaplin, justement, de mélange de néo-réalisme et en même temps, disons, de fiction, comme des contes, il était une fois. Et il avait donc une manière de voir les choses dans ce pessimisme magnifique où il disait, il n'y a pas les bons et les mauvais. Il disait, mes héros, ils sont ni méchants ni bons, mais c'est tous des salauds.
Gavin.
Sergio Leone était donc un grand consommateur de cinéma, vous venez de le dire, Stéphane l'a évoqué aussi, ses nombreuses inspirations, il va puiser dans les films de samouraï, dans les péplums, il cherche lui-même ce que lui pourrait proposer en voyant le cinéma des autres, c'est l'inspiration qui lui vient du cinéma des autres.
Il avait un regard sur le cinéma qui était de se dire que si on veut que les gens aiment ce que vous faites, il faut aimer ce que vous faites. Et il avait découvert une chose étonnante, c'est comment il pensait les films. Et là, je peux vous raconter quelque chose très brièvement. C'est qu'un jour, je suis avec Godard et je dis à Jean-Luc, tu sais, Léon m'a dit qu'il trouvait qu'il était très proche de toi dans la manière de penser les films. Godard, il me dit quoi, celui-là, il est comme, qu'est-ce que tu racontes? Je dis non, si, si. Il dit que vous, tous les deux, vous commencez à penser un film en images et en son avant de penser une histoire. Et il a dit oui, c'est vrai. Et l'idée de Léon, c'était ça. C'est comme dans l'opéra, quand on compose une musique et après on fait les arias. Bon. Et il avait cette manière de voir le truc. Et quand il vous racontait un film, moi, il m'a raconté les diversions d'une fois l'Amérique. Il disait, alors là, il arrive, il fait ça, pam, pam, il tire, là, il bouge. Et il voyait déjà le film fini, avant même que le scénario soit écrit. Et cette manière-là a fait qu'immédiatement, il a eu un public populaire, pas un public intellectuel.
Mais le western, c'était vraiment ce qu'il attirait?
Pas du tout. Il a été obligé de faire un western parce que il se passait que quand il a fait le Colosse de Rhodes, il n'arrive pas à faire d'autres films et commence à marcher le western européen. Et là, il a une idée, comme il y a eu le succès des Sept Mercenaires, il a l'idée, disons, de faire un film comme ça et il s'inspire de Kurosawa dont il a vu le garde du corps Yojimbo. Et il fait un western contraint et forcé. Il n'a pas du tout envie de faire un western. Il veut déjà faire Étude fois en Amérique. C'est déjà son grand projet. Et ça marche, mais il est escroqué par les producteurs, la Jolie. Si bien que pour se venger, il demande à un avocat qu'il connaît, tu vas devenir producteur, Alberto Grimaldi, et on va faire la suite pour quelques dollars de plus. Et il reprend Eastwood et il a besoin de quelqu'un à côté. Donc il va chercher Lee Van Cleef qui avait fait que des gros rôles. Bon, et le ramène. Et là-dessus, c'est un tel succès, parce que le succès n'a commencé vraiment mondialement qu'avec le deuxième. Le premier, ça a été très très lent. Bon, il fait Le Bon, la Brute et le Truand. Et là, il prend Eli Wallach avec. Et là, c'est là qu'Eastwood se fâche. Il dit, dans le premier, j'étais tout seul. Dans le deuxième, j'avais quelqu'un avec moi. Et c'est quoi dans le prochain? La cavalerie américaine? J'arrête. Et là, il était embêté et il veut faire être une fin l'Amérique. Et c'est là que la Paramount, la Gulf Western Company à l'époque, lui propose de venir tourner à Hollywood. Et lui, il propose, il était une fois, l'Amérique. Et on lui dit, non, on veut un western. Mais là, il a attendu des années, il refusait tous les projets, tous les projets. Il voulait faire, il était une fois en Amérique, qui était sa grande histoire, parce qu'il disait, là, moi, je vais mélanger Proust et je vais mélanger Céline. Et d'ailleurs, au début du film, si vous vous souvenez, qu'est-ce que dit De Niro? L'autre, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait tout ce temps-là? Il dit, bah, je me suis couché de bonne heure.
Mais les films de Sergio Leone inaugurent le genre du western spaghetti, il y a d'ailleurs un terme assez péjoratif. Est-ce que ce terme est venu du fait que les Américains étaient jaloux, ils voyaient leur genre phare leur échapper en réalité?
Je pense qu'il y a un critique quelconque qui a dit western spaghetti, comme après ils ont dit western choucroute pour les films allemands. Et lui, il croyait que c'était un mot sur le lasso, que le lasso c'était le spaghetti. Après, il a découvert ce que c'était. Bon. Et il a été écœuré de voir tous ceux qui, en Italie, puis aux États-Unis, ont imité ce qu'il a fait. Il a dit, j'ai inventé un truc et tous les crétins, ils essaient de m'imiter, à part deux ou trois. Et c'est vrai que ça a été cette pléthore de western italien, mais qui avait une force, c'est qui donnait un côté réel, un côté plus vrai de ce qu'était l'Amérique qui s'est construit. Et ça, brusquement, ça a fait que le genre n'a plus été le même. On ne pouvait plus continuer. Mais déjà, John Ford avait commencé à montrer la musique avec L'homme qui tue à Liberty Valance. Puisque entre la réalité et la légende plaît mieux aux gens, vaut mieux publier la légende. Bon. Et lui, il ne voulait pas de la légende, il voulait la fable. Parce que dans une fable, il y a une morale. Et je pense que j'ai toujours dit aux gens, quand ils me parlaient de Léon après sa mort, c'était un grand humaniste, j'ai dit, pas fanculo. C'était pas un grand humaniste, c'était un grand moraliste. Bon, et c'était un grand moraliste.
Les films de Sergio Leone, on vous l'avait dit, ont eu beaucoup de succès auprès du public, pas forcément auprès de la critique, en tout cas lors de leur sortie. Dans votre BD qui lui est consacrée, vous montrez que Sergio Leone a toujours voulu réaliser, et vous nous l'avez dit, des drames sociaux empreints de néo-réalisme, inspirés de son père d'ailleurs. C'est pas l'ambition première du western, mais c'est cette vision très violente et très crue que lui voulait imposer, quitte à déplaire.
Absolument. La bande dessinée commence par une anecdote qu'il m'avait racontée. Il reçoit un journaliste américain qui vient lui dire « Il y a beaucoup de violence inutile dans vos films, beaucoup de violence, pourquoi ?» Et là, il montre le journal du type. Il dit « Voyez cette photo, on voit des petits noirs qui sont en train de casser une vitrine, prendre de l'alcool, ils se font tuer par la police et tout. C'est votre journal, oui ? Et vous dites qu'il n'y a pas de violence aux États-Unis ? » Et le gars s'est tu. Bon, c'est-à-dire que lui, il savait ce qu'était la violence, il l'avait vu. Il avait vu le fascisme exister, il avait vu le bombardement de Rome, il avait vu les gens se battre. En plus, il connaissait le peuple. À Rome, avec Léon, partout où on entrait, les gens qui venaient lui parler, c'était pas les intellectuels et tout, c'était le peuple. Ah, Léon, fatto un nuovo western. Ah, sì, ma non voglio fare un western. Ah, sì, fatto un western. Il était aimé, mais jamais j'ai vu un homme être aimé dans la rue comme j'ai vu cet homme-là.
Mais parlons de son héritage. L'héritage Sergio Leone pour le cinéma est considérable. Des grands réalisateurs comme Tarantino se revendiquent même de leur influence. Qu'est-ce que les films de Sergio Leone ont d'intemporel ?
Ce que nous en avons d'intemporel, les films de Sergio Leone, c'est que c'est d'abord des symphonies. C'est-à-dire que c'est pas. Il m'a toujours dit, tu sais, Morricone, c'est mon meilleur scénariste. Alors, il y a des répliques qui frappent, qui marquent. Mais voyons simplement, très rapidement, le début de Il était une fois dans l'Ouest. On a cette gare, on a ces gens, on a la goutte d'eau, on a la mouche, on a l'harmonica, on a tout ça. Et on est pris. Et au départ, il faut savoir qu'il avait demandé à Morricone une musique. Et quand il a vu la musique au montage, il a enlevé la musique. Et quand il y a la première projection du film, Morricone était derrière Sergio, et il y a tout ce début qui... Et quand c'est fini, il dit, Sergio, c'est ma meilleure musique.
Merci beaucoup, Noël Simsolo, d'être revenu avec nous sur ce réalisateur de légende qui a ouvert la voie à un nouveau type de western. Je rappelle que la très belle biographie en BD que vous lui consacrez, avec des dessins signés Filant, est disponible aux éditions Glénat. Et pour découvrir plus encore Sergio Leone, mais aussi deux autres Sergio, Solima et Corbucci, je vous recommande, chers auditeurs, le podcast « Les trois Sergio, l'histoire des trois réalisateurs » qui ont révolutionné le western, écrit et réalisé par Nico Pratt et produit par Canal+, à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute. Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castillo-Lopez et Gavin Cementerwis, on réunit des personnages qui ont fait un nouveau western. Après Edwin Porter et Sergio Leone, vous nous racontez, Jean-Luc, MC Solar.
Je vais vous parler d'un artiste qui a lui aussi fait un nouveau western, mais pas en film. En chanson. Vous avez reconnu cette chanson de Serge Gainsbourg?
Oui.
Comment elle démarre? Comment on l'adore?
C'est Brigitte Bardot.
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez la chanson de MC Solar.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue.
Eh oui, notre artiste est MC Solar, qui a sorti en 1993 le titre Nouveau Western, qui inclut un sample de la chanson Bonnie and Clyde. Alors, un sample, c'est quoi? C'est un extrait sonore d'une chanson existante, qu'on reprend dans une nouvelle chanson quand on veut pas s'emmerder à composer, pour aller plus vite. À propos de vitesse, Gainsbourg affirmait avoir écrit Bonnie and Clyde en une seule nuit, alors que Brigitte Bardot dormait à côté de lui. Le mec doué, quoi. Bah bon, en fait, c'est pareil. J'ai écrit mon portrait d'MC Solar en une seule nuit. Bam ! Bon, par contre, Brigitte Bardot ne dormait pas à côté de moi. Je suis allergique aux poils d'animaux abandonnés.
Non,
c'est bien sûr ma femme qui dormait à côté de moi. Enfin, je crois, je sais plus. Quand le génie de la création m'envahit, j'oublie tout. Mais revenons à MC Solar et à sa chanson. Et posons-nous la question, qu'est-ce qu'un nouveau western ? Est-ce un western modernisé, dans lequel les Indiens auraient des arcs à viseur laser et des tanks Quechua, ouverture automatique, où ils vapoteraient le calumet électronique de la paix? Un western dans lequel les cow-boys joueraient au poker en ligne et montraient la trottinette électrique de cross?
Trottinette électrique de cross, ouais, ouais.
Oui, mais non, pas pour MC Solar. Dans sa chanson, il dresse en fait le portrait du monde moderne dominé par la culture américaine. Parce qu'MC Solar, c'est ça son style de rap. Des textes intelligents avec un point de vue très bien écrit, quasiment de la littérature. D'ailleurs, avec son phrasé, son flow particulier un peu monocorde, on dirait qu'il lit, qu'il récite. Il a parfois dans sa voix autant d'énergie et d'intention qu'une bibliothécaire.
Vous pouvez me faire passer les livres que vous voulez emprunter avec le code barre au-dessus, s'il vous plaît? Ça m'évite de devoir les retourner à chaque fois, merci.
MC Solar l'assume, il n'a jamais rappé avec une voix aiguë, exagéré ses gestes avec ses mains ou saccadé son flow. Son rap est mélodieux et ses textes ciselés, emplis de poésie et de jeux de mots. Bref, dans ses chansons, qu'importe le flow, pourvu qu'on ait l'ivresse des mots.
C'est de toute beauté.
Oui, je sais, c'est très joliment dit. Hein, MC Solar ou ChatGPT aurait pu écrire cette phrase, mais elle est de moi, featuring Alfred de Musset. Mais revenons à MC Solar. Comment est-il devenu ce rappeur poète? Claude M. Barali, de son vrai nom, né à Dakar, au Sénégal, le 5 mars 1969. Alors non, en fait, pour ses parents tchadiens, c'est pas trop l'éclate. Ils fuient les troubles politiques de leur pays et vont finalement s'installer en banlieue parisienne. Claude obtient son bac littéraire et démarre des études de langue et de philo. Il passe son temps à la bibliothèque où il lit énormément, et notamment tous les journaux. Parallèlement, passionné de musique et notamment de rap, il enregistre ses premières maquettes avec son pote Jimmy J et adopte le nom de MC Solar. Évidemment, vous allez me dire, pourquoi Solar? Eh ben parce que c'était son pseudo de tagueur. Car oui, lui aussi, il taguait. Mais bon, c'est comme pour le rap, hein. C'était sans doute pas très violent. Peut-être qu'il taguait juste avec des craies, en fait, pour qu'on puisse nettoyer facilement derrière. Toujours est-il qu'en 1990, il enregistre son premier single, le fameux...
Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là.
Bouge de là, son premier succès, parfois considéré comme le premier titre de rap français. Fin 91, il sort l'album « Qui sème le vent récolte le tempo ». Il récolte également pas mal de pépettes, hein, puisqu'il s'en vaut 400 000. Un album qui contient le single « Victime de la mode », mais également un véritable tube.
Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline.
Caroline, un rap sur une douloureuse déception sentimentale à cause d'une superbe fille partie avec un vieux macho. Alors évidemment, on aimerait tous savoir qui était cette superbe Caroline. Hein ? Caroline de Monaco ? Caroline Barclay ? Caroline Margeridon, avec lesquelles il pensait que c'était déjà une affaire conclue. Eh ben non, aucune des trois. MC Solar a révélé il y a un an qu'elles étaient deux, devant et dans la même classe. Il a fait un mix, mais de deux meufs. Qui, si ça se trouve, s'appelaient en plus Ginette et Marceline. Ce qui, comme dit, est tout de suite un peu moins vendeur. Par contre, il a pécho Ophélie Winter. Hein, enfin, pardon, il a vécu 5 ans avec Ophélie Winter, de 95 à 2000. Dans son autobiographie Résilience, la mannequin et chanteuse le décrit d'ailleurs comme doux et érudit. Cette douceur et cette érudition, MC Solar les met à profit de ses chansons. De 92 à 2007, il n'arrête pas. En 94, il sort son deuxième album, Prose Combat, avec le titre Nouveau Western, dont on a parlé tout à l'heure. Puis il enchaîne les albums Paradisiaque en 97, MC Solar en 98, puis 5ème As en 2001 avec les tubes A la Vista et Solar Pleure.
Seul, sous son sol pleureur, Solar Pleure.
Après un gros break de 10 ans, il sort Géopoétique, son 8ème album pour lequel il gagne sa 5ème victoire de la musique.
J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. À chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux.
30 ans après s'être imposé dans le monde du rap, MC Solar, il reste une référence et un modèle d'élégance, de pertinence et de sophistication. En 2014, un site spécialisé répertoriait un vocabulaire de 7691 mots différents dans ses chansons. Eh oui, moi je n'en aurais qu'un. Bravo! Et hasta la vista.
Hasta la vista.
Merci beaucoup Jean-Luc. Très joli portrait d'un homme qui le mérite vraiment.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont fait un nouveau western pour retrouver nos deux cow-boys à nous. Ils n'ont pas de pistolet chargé, alors ils creusent sur tous leurs sujets. David Kessel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un train à grande vitesse qui n'est pas le TGV, ou en tout cas sa version nippone.
Tout à fait, le Shinkansen.
Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux quelle époque. Aujourd'hui, on reste au Japon avec vous, Gavins Clemente Ruiz, pour découvrir une collection de kimonos peints selon une technique du 14e siècle, remise au goût du jour par un artiste, Ichiku Kubota, qu'on peut aujourd'hui découvrir dans un musée d'art non loin de Tokyo et qui porte son nom.
Exactement, Stéphane. Ichiku Kubota et sa technique qui s'appelle, dans le registre des mots étranges et amusants que Jean-Luc adore, la technique du Tsujigahana. Alors, c'est en effet une technique qui était utilisée dès le 14e siècle au Japon pour teindre les kimonos. Alors, c'était une technique basée sur une multitude de petits nœuds qui laissent des traces une fois dénoués, un peu comme le tie-and-dye, mais plus sophistiqué. Alors, le kimono, je rappelle, littéralement, ça veut dire « ce qui se porte ». C'est un pyjama tunique de soie ou de coton, porté traditionnellement par les hommes, comme par les femmes, par les samouraïs, les geishas, les acteurs de théâtre aussi, un incontournable, en quelque sorte, du vestiaire japonais. Eh bien, à l'âge de 20 ans, devant ces kimonos teints, selon la technique du Tsujigahana, au Musée National de Tokyo, l'artiste Ichiku Kubota, né en 1917, a une révélation. Il n'a plus alors qu'une obsession, c'est reproduire cette technique, tout en l'adaptant. Alors, il lui faudra quand même quelques années pour créer son propre style de teinture, proche du Tsujigahana, et atteindre l'âge de 60 ans pour présenter ses premières impressions.
Et que représentent ces dessins ?
Alors, bah, c'est très champêtre, hein. C'est très bucolique, exactement comme cette petite musique. Dès qu'il se met à produire ses propres kimonos, Ichiku Kubota célèbre la nature avant tout et le mont Fuji en particulier, qui le fascinait tout autant. Et d'ailleurs, il installe son atelier de création à Kawaguchiko, non loin du fameux mont Fuji. Il travaille au niveau de l'étoffe. Il remplace la soie par de la crêpe de soie. Il utilise des colorants synthétiques pour faire revivre cette technique qui était tombé aux oubliettes de l'histoire.
Et c'est sur les lieux de son atelier que sera finalement créé son musée ?
Exactement, c'est ça. C'est un lieu très particulier, construit en 1994, un peu décalé, déjà dès l'entrée. On est accueilli par une immense porte en bois sculptée que Kubota a rapportée de ses voyages en Inde. On traverse un jardin tout aussi inspirant. Alors là, on croise des écureuils qui sont là, qui volent d'arbre en arbre. Il y a des petits ruisseaux
Ça ne vole pas un écureuil, hein, ça.
Ça saute.
Plane, hein. Mais si, parce que
ça plane si, un peu. Justement, regardez, on dirait qu'il vole, je jure, d'arbre en arbre.
Il sautille à la rigueur.
Ils font des sacrés sauts quand même.
C'est ce de la peau là.
Ouais,
c'est
ça, vous savez,
on dirait
presque des chauves-souris. Qui, ouais, c'est assez impressionnant. Il y a aussi des petits ruisseaux comme ça qui coulent entre les pierres moussues. C'est vraiment très bucolique. C'est un lieu très très apaisant.
Mais on vient surtout pour voir les kimonos dans le bâtiment principal de ce musée.
Oui, c'est un bâtiment assez impressionnant, hein, de forme pyramidale. Là encore une fois, c'est très original. Une architecture toute en bois, soutenue par 16 poutres qui sont vieilles de plus de 1000 ans. Tout est symbolique là-bas. Tout ça en face du mont Fuji, bien sûr, qu'on peut apercevoir depuis le salon de thé du musée. C'est là qu'une partie des créations d'Ichiku Kubota, assez monumentales et très colorées, sont exposées. On parle même maintenant d'un style de teinture qui lui est propre. On parle du style Ichiku Tsujigahana.
Mais est-ce qu'on peut encore parler de vêtements quand on voit ces créations alors ?
Bien, quand on se retrouve devant ces vêtements, dans cette pyramide de bois, entourée de tous ces kimonos colorés, on dirait des tableaux en quelque sorte. C'est très poétique. On pourrait se demander en effet si ce vêtement traditionnel japonais n'est pas devenu une simple œuvre d'art.
Mmh. Mais le musée de cet artiste, Ichiku Kubota, ne se résume pas à cette pyramide de bois avec ses kimonos.
Non, il a ajouté une aile en 1997 à ce musée. Et là, c'est une toute autre architecture qui est présentée, encore très originale. On dirait des fleurs géantes blanches aux murs de calcaire issus des coquillages des récifs japonais. Encore une fois, c'est très précis, très symbolique. Pour l'inspiration, Kubota a cherché à rendre hommage là à l'architecte espagnol Gaudi, qu'il admire, et à son fameux parc Güell à Barcelone. Et on peut dire que avec cette construction, il a créé quelque chose, encore une fois, très original. Et il dit, je cite, « La trinité des humains, de la nature et de l'art sont ici célébrées. Ces fleurs géantes de calcaire sont désormais envahies par la végétation. C'est un lieu un peu hors norme, à l'image, en quelque sorte, de son créateur. »
Eh bien, merci beaucoup, Gavins, pour la découverte de ce musée d'art créé et consacré au théâtre de l'artiste japonais Ichiku Kubota dans la banlieue de Tokyo, qui a perpétué une tradition de teinte de kimono vieille de plus de 7 siècles. Et pour vous qui nous écoutez, qui souhaitez poursuivre votre découverte de l'art des kimonos, je vous rappelle qu'une superbe exposition se tient actuellement au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, où sont présentés kimonos d'hier et d'aujourd'hui, les plus traditionnels aux kimonos créés par des créateurs de mode comme John Galliano ou Alexander McQueen. C'est une exposition parrainée par Europe 1.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Gavin Clementerouis, mais maintenant avec vous, David Kessel-Lopez. On reste donc au Japon, je l'ai dit, puisque vous nous racontez les origines du train à grande vitesse, le Shinkansen.
Tel que vous me voyez là, messieurs, je suis un homme moderne. Je considère que la sexualité est un spectre, et que le genre est fluide. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. Avant d'être un homme de mon temps, j'ai été un petit garçon du passé. Un petit garçon pas du tout déconstruit. Moi, ce que j'aimais quand j'étais petit garçon, c'était la même chose que 98% de tous les petits garçons jusqu'à l'année dernière, à savoir les tanks, les avions de chasse, les pistolets et les trains. Et comme tous les petits garçons, je préférais les trains qui vont vite aux trains qui vont lentement. Et donc, comme tous les petits garçons, je préférais le TGV au train Corail. Et j'étais même un petit peu content que le TGV soit français. Confusément, je me disais que c'était cool de vivre dans un pays où il y avait le TGV parce qu'une partie de la gloire de ses performances rejaillissait sur moi. J'avais pas besoin d'admirer des puissances lointaines et exotiques. Je pouvais admirer ma maison. Mais, à cette époque, de la fin des années 80, du début des années 90, je ne connaissais pas encore l'existence de l'équivalent japonais du TGV, dont il est même abusif de dire qu'il est l'équivalent japonais du TGV, puisque c'est plutôt le TGV qui en est l'équivalent français, le Shinkansen. Le premier train à grande vitesse de l'histoire de l'humanité. Le Shinkansen, il a été inauguré en 1964, soit plus de 15 ans avant le TGV. Le Japon, en 1964, c'était un miracle sous forme de pays. En 1945, quand même moins de 20 ans avant, le pays, il était détruit sous tutelle des États-Unis par terre. Mais en 1968, c'était devenu la deuxième puissance économique du monde derrière les États-Unis, justement. Et 1964, dans toute cette marche à la gloire, ça a été une année charnière. Le Japon est entré dans l'OCDE, il a organisé pour la première fois en Asie les Jeux Olympiques et le Shinkansen a été inauguré le 1er octobre. Comme souvent d'ailleurs, ce qui a motivé les Japonais à sortir le Shinkansen cette année-là, c'est précisément les Jeux Olympiques. Parce que vous savez, quand on organise les Jeux Olympiques, tout le monde vous regarde. Et les Japonais, ils voulaient qu'on regarde leur beau train en se disant « Waouh, comment ils sont trop forts en train, les Japonais !» Le Shinkansen, il pouvait aller à 210 km/h et relier Tokyo à Osaka en 4 heures au lieu de 6h30 avant. Alors tout le monde était content au moment de l'inauguration, sauf le père du Shinkansen, un monsieur qui s'appelait Hideo Shima, qui n'était même pas présent à l'inauguration. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait tellement dépassé le budget initial prévu pour la construction du Shinkansen qu'il a été forcé de démissionner. Et bon, c'est vrai que les budgets de travaux publics, souvent, ils explosent. Mais là, ça avait quand même beaucoup explosé. C'est-à-dire que le budget de départ, c'était 195 milliards de yens. Et finalement, ça a coûté 380 milliards de yens, presque deux fois plus. Hideo, il avait notamment sous-estimé le coût de construction des tunnels. Et puisque le Japon s'est accidenté, donc il a fallu trouer une quantité incroyable de montagnes pour faire passer le train. Mais ce surcoût, c'était qu'un des problèmes. L'autre, c'était le bruit. Le Shinkansen, il allait tellement vite que quand il rentrait dans les tunnels, ça faisait une sorte de boom sonore qu'on entendait à 400 mètres. Et pas seulement un boom, ça faisait des ondes de choc qui cassaient des vitres dans les maisons des alentours. Alors au départ, ils ont trouvé une solution un peu de fortune. Ils ont réduit la vitesse du train dans les tunnels à 90 km/h. Mais bon, ça réglait le problème. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir le train le plus rapide du monde si on doit le faire rouler à la vitesse d'un train normal dans les 67 tunnels qu'il y a entre Tokyo et Osaka, hein? Eh ben, ça sert à que dalle. Mais finalement, dans les années 90, il y a un monsieur qui a trouvé la solution. Il s'appelait Eiji Nakatsu. Il était ingénieur, mais c'était aussi un fan d'ornithologie. Et pour adapter la forme du Shinkansen dans la perspective de régler le problème du bruit dans les tunnels, il a eu l'idée d'imiter le martin pêcheur. Vous connaissez cet oiseau formidable qui arrive à plonger dans l'eau en douceur sans provoquer de remous grâce à son super long nez effilé. Eh bah, ben, il a pris ce design de la nature, il l'a appliqué au Shinkansen. Et ça, super bien marché puisque ça a permis de réduire le bruit d'entrée dans les tunnels en dessous de 70 décibels, ce qui était le niveau réglementaire dans les zones résidentielles. Bon, dans l'ensemble, onde de choc ou pas, le Shinkansen, ça a été un succès qui a provoqué des jaloux, notamment en France, pays du train par excellence. On a même parlé un moment de complexe du Shinkansen, et c'est en partie ce complexe qui a poussé les Français à faire le TGV. TGV qui, dans sa version miniature, a fait le bonheur des petits garçons non déconstruits des années 80.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont mis en scène leur propre mort. La divine actrice Sarah Bernard, dont on commémore les 100 ans de la mort, justement, et qui s'y était préparée en dormant dans son cercueil, vous verrez. Puis Louis XIV qui a organisé son grand départ avant de partir. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un cinéaste qui a mis en scène sa propre mort, au cinéma, forcément.
Oui, enfin, cinéma, c'est un court-métrage d'une minute, dans lequel David Cronenberg, puisque c'est de lui dont il s'agit, eh ben, il met en scène sa mort, un projet intitulé sobrement « The Death of David Cronenberg ». Je vous raconte tout ça lundi.
Eh bien, on sera là. Alors, à lundi, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.